Deuxième partie. 1.
Le lendemain, 7 août, les prisonniers faits à Kolivan sont amenés dans le camp où se trouve l'émir Féofar Khan. Parmi tous ces prisonniers, le plus docile est Michel Strogoff, car il ne veut pas être remarqué ni reconnu. Il pense beaucoup à sa mère et à Nadia et il se demande où elles sont. 4 jours plus tard, le 12 août, Ivan Ogareff arrive dans le camp tartare, accompagné d'une armée importante, d'un groupe de prisonniers russes et sibériens et d'un groupe de bohémiens qui sont ceux que Michel Strogoff a déjà rencontrés à 2 occasions. La bohémienne Sangar est une espionne d'Ivan Ogareff et elle est capable de tout pour plaire à son maître. Ivan Ogareff descend de cheval et s'avance vers Féofar Khan. « Tu es le maître de la principale route sibérienne qui va de Ichim à Tomsk, » lui dit-il. « Les troupes du tsar ont été vaincues à Kolivan, et elles le seront partout. Que dois-je faire ? Tu dois prendre la ville d'Irkoutsk, qui est la capitale des provinces de l'Est, et prendre en otage le grand-duc, le frère du tsar. C'est ce que je ferai, Ivan Ogareff. Nous allons partir aujourd'hui pour Tomsk. » Ivan Ogareff s'incline. À ce moment, il entend des cris qui viennent de l'endroit où se trouvent les prisonniers. Ses soldats lui amènent 2 hommes. Ce sont Harry Blount et Alcide Jolivet. « Qui êtes-vous, messieurs ?»« 2 correspondants de journaux anglais et français, » répond Harry Blount. « Vous demandez l'autorisation de suivre nos opérations militaires en Sibérie ?»« Nous demandons la liberté, » répond le correspondant anglais. « Mais vous êtes libres, messieurs !» répond Ivan Ogareff. Parmi les prisonniers amenés par Ivan Ogareff, il y a une vieille femme que Sangar surveille attentivement. Cette vieille femme, qui, malgré son âge, a dû marcher à pied, ne se plaint jamais. Une jeune prisonnière l'accompagne et s'occupe d'elle. C'est Nadia. Un jour, Nadia lui raconte tout ce qui lui est arrivé depuis son départ de Riga jusqu'à la mort de Nicolas Korpanov.
« Nicolas Korpanov, » dit la vieille femme, « parle-moi encore de lui. Tu me dis que c'est un homme courageux et qu'il t'a sauvé la vie, mais qu'il s'est montré lâche au relais de poste d'Ichim. »
« Oui, mais je suis sûr qu'il l'a fait par devoir et je l'ai admiré sans le comprendre. »«
C'est mon fils, » pense la vieille femme.
« Il était grand, très grand et très beau, n'est-ce pas ? Parle, ma fille. »
« Oh, il était très beau, » répond Nadia en rougissant.
« C'est mon fils. Je te dis que c'est mon fils !» s'écrie la vieille femme en embrassant Nadia. « Dis-moi, Nadia, ton compagnon t'a parlé de sa mère. »
« Oui, il m'a souvent parlé de sa mère, comme je lui ai souvent parlé de mon père. Il adorait sa mère. »
« Et il allait la voir en passant par Omsk, n'est-ce pas ?»«
Non. » Il n'allait pas la voir parce qu'il ne devait pas la voir. J'ai cru comprendre que Nicolas Korpanov devait traverser le pays en secret.
C'était un devoir sacré.
Un devoir, en effet,
dit la vieille femme.
Un devoir plus fort que l'envie de donner un baiser à sa vieille mère. Tout ce que tu ne sais pas, Nadia, tout ce que je ne savais pas moi-même, tu viens de me le faire comprendre.
« Ce secret que mon fils ne t'a pas dit, je le connais maintenant, et je ne peux pas te le dire. »«
Mère, je ne vous demande rien. »«
Peut-être que celui qui te donnait ce nom de sœur n'est pas mort, Nadia. Espère, ma fille, fais comme moi. »
Michel Strogoff fait partie des prisonniers du camp. Nadia et la vieille Marfa ne le savent pas. Mais un jour, le 15 août, Nadia l'aperçoit et pousse un cri. À ce cri, Michel Strogoff tressaillit. Il a reconnu Nadia et aussi sa mère.
Mais il ne dit rien et s'éloigne.
« Ne bouge pas, ma fille !»
dit la vieille femme qui a vu ce qui s'est passé.
« C'est lui, ma mère !» répond Nadia. « Il vit !»«
C'est mon fils, c'est Michel Strogoff, et tu vois que je ne fais pas un pas vers lui. Fais comme moi !»
Sangar, qui surveille toujours Marfa Strogoff, a vu ce qui vient de se passer et elle va aussitôt le raconter à Ivan Ogareff.